Bonjour, ici Gras pour les Dubitaristes. Qu'êtes-vous en train d'écouter ? Il s'agit d'une série d'interviews réalisées durant l'été 2021, dans le but très méta de questionner le scepticisme. Notre association, les Dubitaristes, se revendique de l'esprit critique, mais nous savons que nous n'en sommes pas experts et expertes, et que la communauté zététique n'en est pas gardienne. C'est pourquoi je suis allé trouver des personnes plus ou moins proches de la zététique, certaines ne connaissaient d'ailleurs pas le terme, pour parler de l'esprit critique avec elles. Les thèmes évoqués varient bien sûr selon les personnes, mais la discussion reste orientée vers les représentations biaisées qu'on peut avoir de l'esprit critique, sur des dérives de ses usages, sur des aspects problématiques liés à la communauté elle-même, bref, des critiques. Je salue au passage une partie des productions critiques du scepticisme et de la zététique, venant de l'extérieur ou de l'intérieur de la communauté. Petits avertissements avant de commencer. Les projets de notre association sont acceptés en collectif, mais les prises de position individuelles n'engagent pas le collectif. Dans cette émission, ma parole reste donc la mienne. Et je vous prie d'excuser mon amateurisme en matière d'interview et de production audio, j'espère que l'émission restera agréable à écouter. Pour cet épisode, nous sommes avec Marc, qui travaille dans un établissement de culture scientifique. Même s'il ne se déclare pas philosophe, il me semblait que son avis extérieur à la sphère sceptique, qu'il a découvert depuis peu, était éclairant. Sur ce, bonne écoute et que le doute soit avec vous.
Donc moi je m'appelle Marc, je m'occupe ici de deux choses. Du pôle, ce qu'on appelle ingénierie culturelle, qui est en fait du conseil, une prestation intellectuelle que l'on vend à des tiers, des collectivités, des entreprises, des agences publiques, des musées, des associations, en rapport avec la culture scientifique et technique. Et en rapport avec nos métiers, donc on crée des expositions, on crée des dispositifs de médiation, on peut aussi avoir des réflexions sur de la stratégie pour positionner, une cité des sciences ou je sais pas quel sujet, ou quelque chose en rapport avec la culture en général. Voilà. Et puis je m'occupe aussi, avec mes collègues, de la partie marketing et communication. Et je ne suis pas issu du monde de la culture scientifique et technique, j'y suis depuis 2 ans, mais avant, j'ai travaillé dans le monde des événements, des congrès et des salons. Voilà. En revanche, je me suis beaucoup intéressé à la recherche, parce que j'ai pas mal travaillé avec des chercheurs sur des projets en entreprise-recherche, et je me suis pas mal intéressé notamment au rôle des congrès et des salons, au monde de la rencontre, en fait, dans la recherche et l'innovation en général. C'est des sujets que j'ai abordés, soit avec des chercheurs, soit tout seul, voilà.
Par rapport à la sphère sceptique, au mouvement sceptique, est-ce que tu peux te situer par rapport à ça ?
Alors d'abord, peut-être en préambule, parce qu'on va parler un peu de l'esprit critique, en fait. Moi, la sphère sceptique, je la découvre. Il se trouve que j'ai travaillé pendant 2 ans sur la fabrication d'une exposition sur l'esprit critique. Et avant même de parler de la sphère sceptique, en fait, moi, je ne connaissais pas de manière, on va dire, intégrée, habituelle, la notion d'esprit critique. Pour moi, c'est quelque chose qui ne m'appartenait pas, qui n'appartenait pas à mon vocabulaire, ni à ma manière de penser, à aucun moment. Et j'ai découvert, en rentrant dans le monde de la culture scientifique et technique, cette notion d'esprit critique. Moi, je connaissais le mot critique, évidemment. Alors, j'ai fait philo, quand même. Donc, j'ai des lectures régulières qui m'amènent à lire le mot critique. Je sais pas, moi, la critique des raisons pures, la crise des sciences européennes, la critique de l'économie politique. Enfin, en tout cas, le mot critique, réflexion philosophique, fait partie d'une certaine manière de mon quotidien. En revanche, l'idée d'esprit critique, cette espèce de concaténation de mots là, c'est pas du tout mon truc. Et j'ai découvert que ça existait. Alors, j'avais la notion, bien sûr, comme tout le monde, il faut un esprit critique dans le journalisme, etc. Mais c'était pas du tout voilà. Donc j'ai découvert ce monde, et donc j'ai découvert l'univers de ce que tu appelles la sphère sceptique, qui moi me fait bizarre, parce que j'ai, par exemple, l'expression sphère sceptique, pour moi, c'est nouveau. J'ai déjà travaillé sur la philosophie sceptique, Piron, Spezi, aussi Montaigne, enfin, ou Hume, des auteurs philosophes qui se sont intéressés à ce thème ou qui se positionnent sur ce thème-là. Mais la sphère sceptique en tant que telle ne fait pas partie de mon imaginaire. Alors, en revanche, je sais donc qu'il y a quelque chose qui est une sphère sceptique, plus ou moins liée à une idée qui est la zététique. Pareil, que je découvre complètement depuis 2 ans. Alors, c'est difficile de se positionner. Pour moi, c'est quelque chose qui reste quand même très loin de moi. vraiment très très loin. Hein. Et je découvre à la fois l'argumentation, les personnes qui... Là, je me suis intéressé par exemple au travail de Richard Monvoisin, avec sa thèse qu'il avait écrite en 2007. Donc je me suis intéressé à son travail, je me suis intéressé à ce que pouvaient faire des youtubeurs qui se positionnent sur ce sujet-là. Je découvre tout ça, ben, je suis assez sceptique en fait, hein, à vrai dire, dans la mesure où, où je ne m'y retrouve pas du tout, hein, et où moi je suis habitué à étudier, à apprendre, hein, en autodidacte en fait. Hein, et en fait, quand je découvre tout cet univers-là, et la manière dont c'est exprimé, ça ne me donne plus envie d'apprendre. Ça ne me donne plus envie de découvrir les choses. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu dans les premiers pas que j'ai faits en découvrant le discours sur l'esprit critique. Il y a quelque chose qui m'a refroidi, en fait, hein, et qui, pour moi, s'éloignait de ce que pouvait être la pensée ou de combien c'est difficile de savoir ce que c'est que penser et quand est-ce qu'on pense. Et je n'ai pas l'impression que dans ce que j'ai pu lire ou regarder, donc des acteurs de cette sphère sceptique, d'ailleurs qui font finalement assez peu référence à la philosophie sceptique, hein, en tant que telle, hein, c'est assez peu développé. Il y a, en tout cas dans ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'il y a des liens qui sont faits, mais très vite effacés. Enfin, on creuse pas trop sur le sujet. Hein, voilà. Il est difficile de savoir quand est-ce qu'on pense, et j'ai l'impression qu'à travers ce que je découvrais, eh bien, c'était même plus possible. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de vocabulaire, tellement de technicité, en fait, dans ce qui était dit. Et puis aussi, je trouve qu'il y a, dans ce que j'ai pu entendre, évidemment, c'est peut-être trop partiel, mais par exemple, le vocabulaire, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de sous-entendus. C'est presque ludique, les types d'arguments, les types de pièges dans lesquels on peut tomber, à lesquels il faut être attentif, tout ça. C'est ce grand monde-là, de plein d'effets contre lesquels on doit plus ou moins lutter, hein, ça m'a perdu, en fait. Et j'ai l'impression que dans ma propre recherche personnelle, à aucun moment c'est comme ça que je peux avancer. C'est beaucoup plus ouvert, je ne sais pas où je vais du tout, jamais. En revanche, on a des échos, on essaie de saisir. Mais quelque chose qui dit déjà tout de suite, ben, penser ça va être comme ça, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ci. Comme si finalement le chemin était déjà plus ou moins identifié, même si ça reste très ouvert dans l'approche, hein, qui consiste à dire, ben, en fait, on sait rien, y a trop de choses déjà dites, et c'est trop sur la méthode, hein, telle que ce que je comprends, hein, et pas assez sur le véritable chemin qu'on doit parcourir personnellement, quoi. C'est la technicité qui, moi, me désarçonne. Ouais, c'est l'affirmation aussi de savoir que finalement, pour bien penser, c'est par là qu'il faut aller. C'est une sorte de rationalité aussi qui est exprimée, hein, qui paraît assurée, et moi qui me perds. Hein, c'est au fond, je trouve pas assez creusé sur ce que c'est justement le scepticisme. Après, moi, je découvre ça, j'essaie de comprendre d'où ça vient, comment ça fonctionne, pourquoi aujourd'hui ce type de discours se développe. Ce qui me désarçonne aussi, c'est que il y a, je crois, au départ, un objectif dans la zététique et dans la sphère sceptique, si c'est la même chose, qui est de faire le distinguo entre le scientifique et le pseudo-scientifique. Et puis, en fait, on se rend compte que ça va au-delà. C'est-à-dire que l'application de la méthode dépasse la simple démarcation du scientifique et du non-scientifique et va dans le domaine éthique, politique, etc. Tout ça plus ou moins couplé à l'idée d'une démarche scientifique. Donc ça aussi me perd pas mal, hein, l'idée qu'il y a une démarche scientifique. Et si j'ai bien compris, parce qu'évidemment, je n'ai pas bien compris. Mais en tout cas, tout ça me perd de manière générale. Voilà.
Tu as parlé de la démarcation entre science et pseudo-science. Tu peux développer là-dessus ?
Alors, pardon, je vais juste faire une digression. Parce qu'avant d'arriver à la démarcation science-pseudo-science, il y a quand même cette idée générale de l'esprit critique et de l'émergence du discours sur l'esprit critique. Et en fait, la question de la démarcation entre science et pseudo-science, j'ai l'impression que ce n'est qu'une partie du sujet, hein, une toute petite partie. Hein. Donc, je ne sais pas, à un moment donné, il faudrait qu'on remonte, hein, sur l'idée générale de l'esprit critique et de l'émergence du discours sur l'esprit critique, pour ne pas rester uniquement dans le carré démarcation scientifique, non scientifique. Donc, aujourd'hui, moi, par exemple, ce qui me surprend sur ce sujet, alors, donc je sais qu'il y a notamment à Nice, hein, Monsieur Brock, hein, qui était professeur de physique, hein, qui a été un peu le réinitiateur d'un mouvement zététique en France, et qui reposait d'abord sur une certaine manière de lutter contre ceux qui donnaient la mémoire de l'eau, ceux qui pliaient les cuillères du regard, enfin tout cet univers-là paranormal, voilà, auquel beaucoup de gens croient dans leur vie au quotidien, plus toutes les sciences ou les pseudo-sciences critiquées, comme l'homéopathie ou toute une série de sciences qui guérit, dont les bases scientifiques sont pas forcément justifiées. Donc j'ai compris que c'était ça, le combat. Moi je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est mon sentiment, hein. Il y a des grands combats, il y a des grands sujets, par exemple le créationnisme aux États-Unis, rétablir ce que la science a dit sur l'évolution de la vie, que les gens contestent, hein, avec en plus tout un schéma politique derrière. Et puis il y a des petits sujets, hein. Par exemple, je relisais le bouquin de Thomas Durand, La Comtesse qu'on biaise, hein, où dans le premier chapitre, il cite toute une série de pseudo-sciences. Hein. Et j'ai l'impression des fois que c'est des faux combats. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup d'énergie à dire « Ah là là, regardez tout ça, ce sont des illusions, on se trompe, ce sont des croyances, il faut, etc. » Des fois, j'ai envie de dire « Et alors quoi ?» J'ai l'impression qu'il y a plus grave. Je pense qu'il y a des sujets très importants sur le négationnisme, la falsification de l'histoire, et puis il y a des sujets moins importants sur les sciences de guérisseurs ou je ne sais pas quel truc. Ce n'est pas un sujet qui m'intéresse en tant que tel, d'aller lutter contre les pseudo-sciences en tant que tel, de dire l'homéopathie par exemple, c'est ridicule, etc. C'est pas mon histoire, ça, en fait.
Du coup, tu penses que la posture sceptique, des fois, peut amener à taper brutalement sur des croyances populaires et sur les croyants par la même occasion?
Moi, le premier truc, c'est est-ce que c'est un bon combat? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'énergie là-dessus? Bon, voilà. Après, il y a la deuxième question que tu poses de brutalité à l'égard de croyances des uns et des autres. Ça, c'est compliqué. C'est rien. Si on parle de l'homéopathie, elle n'est peut-être pas scientifiquement prouvée, mais il se trouve que psychologiquement, elle fait du bien. Or, y compris dans la médecine la plus scientifique, la plus prouvée, la dimension psychologique est extrêmement importante. Alors, tout ça est peut-être à relativiser, en fait. En tout cas, moi, je préfère une posture qui consisterait à dire « Aujourd'hui, on avait dit qu'il y aurait 3% du PIB qui serait consacré à la recherche. Il n'y en a que 2. » On s'était dit ça en 2020 à Lisbonne, en tout cas, c'est un conseil européen qui s'était réuni en disant qu'il y a une ambition, il faut qu'on investisse dans la recherche. Il y a des pays qui investissent énormément dans la recherche et d'autres qui investissent moins. Bon, en France, je crois que c'est autour de 2. Ben, je trouve plus important de se battre pour qu'il y ait plus de recherche plutôt que de se battre pour dire ça, c'est pas de la science, etc. Et j'ai l'impression que finalement, on dépense beaucoup d'énergie à lutter contre les croyances des uns et des autres qui ne sont pas des croyances très graves. C'est plus grave le négationnisme que l'homéopathie. Enfin, j'ai l'impression. Et peut-être qu'il y a l'énergie à dépenser sur l'inverse, c'est-à-dire il faut absolument investir plus dans la science. C'est pas contradictoire, simplement, c'est des orientations de discours, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça qui prennent trop de place dans le discours sceptique qu'on entend partout, comme... Moi, je pense au biais cognitif, par exemple.
Bon, déjà, moi, il faut quand même rappeler, hein, je suis pas un connaisseur du discours sceptique de la sphère sceptique. Je le découvre au fil de l'eau, je passe pas beaucoup de temps dessus, parce que, en fait, je me lasse très vite. Hein. J'arrive pas à tenir, en fait. En revanche, je suis intéressé pour comprendre comment ça se fait que ça apparaît, comment ça se fait qu'il y a autant d'énergie. Surtout que parmi ceux qui prennent la parole, il y a vraiment des populations variées, souvent scientifiques. Enfin, il y a des gens qui ont déjà beaucoup travaillé, beaucoup fait de recherches. Donc, je suis surpris et intéressé. Pour moi, en fait, le discours de la sphère sceptique, ça reste pas très important. Enfin, on en parle, moi je l'ai découvert, mais toute ma vie j'ai vécu sans savoir. En fait, les gens qui travaillent sur ces sujets-là, ils traitent les sujets qu'ils veulent. Moi, il y a des sujets qui ne m'intéressent pas, ou plutôt, il y a des sujets qui m'intéressent, mais ce qu'on me raconte dessus, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, quand je reprends le bouquin de Thomas Durand qui me parle de la question du genre, ben, en fait, ça ne m'intéresse pas. La question m'intéresse, hein, mais je préfère aller lire Judith Butler ou de lire des gens qui ont vraiment travaillé dessus, plutôt que d'écouter ce qu'ils me racontent. En fait, j'ai l'impression que vaut mieux aller directement voir les auteurs qui travaillent sur les sujets.
Ce que tu viens de dire sur le genre, ça peut nous amener à nous demander quel pourrait être l'apport des sciences humaines dans le scepticisme.
Ce qui serait intéressant, peut-être, c'est de faire une sociologie en fait des sceptiques. C'est qui en fait aujourd'hui les gens qui produisent tous ces discours, toute cette production textuelle, orale, vidéo sur le discours sceptique. Ce serait intéressant de voir qui c'est, quelle est la part de gens qui viennent des sciences humaines, hein, quelle est la part de gens qui n'en viennent pas. De ce que je comprends pour l'instant, c'est que c'est pas trop les sciences humaines qui justement parlent. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est de manière générale, la question de l'esprit critique, elle pose assez peu, en tout cas en France, la question de la philosophie et du philosopher. Alors que finalement, il y a un désir de penser, il y a un désir de philosopher en fait dans tout ça. Ça vient, il y a quelque chose qui est construire sa pensée. Donc la chose qui est étonnante, c'est que finalement le lien avec la philosophie n'est pas fait. Hein. Et ce sont souvent, mais il faudrait regarder ça de plus près, ce sont souvent des gens qui viennent des sciences biologie, sciences physiques, qui sont émetteurs. C'est intéressant de voir que, en fait, une science qui n'est pas classée sciences humaines, à un moment donné, il y a la volonté, comme il y a une grande tradition aussi d'épistémologie, de philosophie des sciences, qui sont produites par les physiciens aussi eux-mêmes, par les biologistes, je ne sais pas, le hasard et la nécessité de Monod, la logique du vivant de Jacob, et puis plein de trucs. Il y a Prigogine, il a écrit des textes aussi de philosophie des sciences. Donc il y a beaucoup de scientifiques qui produisent une pensée, des concepts, de la philosophie, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a un désir de ça. La seule chose, c'est qu'il se prononce finalement sans tenir compte de ça. C'est quand même dommage, en fait, d'avoir tout un discours sur la démarche scientifique et finalement, j'ai l'impression de ne pas faire référence ou de ne pas utiliser toute une série de gens qui travaillent là-dedans tout le temps, quoi. Donc sans doute que ce serait intéressant d'avoir plus de sciences humaines. Et il y a peut-être un désir, quand on voit la population, qui est plutôt une population de biologie, sciences physiques, je ne sais pas comment, j'allais dire sciences dures, mais je pense que c'est trop réducteur et ça ne veut pas dire grand-chose. La biologie, je ne peux pas dire que c'est une science dure, qui a elle-même à questionner la physique, etc. Donc, mais c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment aujourd'hui, de manière générale, un désir de penser, qui se formule partout et qui n'arrive peut-être pas à s'accomplir facilement, quoi. Du coup, il y a peut-être une production comme ça de choses, parce que les gens veulent construire quelque chose avec leur pensée. Et ça prend cette forme-là. Et ça serait intéressant de comprendre. C'est moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'est-ce qui est en train de se passer quand, au fond, on prend la parole sur la question de la pensée sans faire référence à la philosophie. En faisant référence, comme tu le dis, assez souvent au biais cognitif, il y a une bande dessinée qui est sortie là, sur l'esprit critique.
De Galli et ouais. Isabelle Beautian.
Ouais. Bon, elle est vraiment dans la démarche, j'ai l'impression, on va dire, classique de la sphère sceptique, où il y a un chapitre sur les biais cognitifs. Moi, c'est pareil, les biais cognitifs, je découvre ça depuis 2 ans, parce que j'étais amené à m'y intéresser. Je trouve ça d'abord très intéressant que les biais cognitifs, dans un discours qui porte plutôt sur la démarche scientifique, parce que c'est quand même, la sphère zététique, elle parle quand même plutôt de démarche scientifique, et de rationalité. Donc je trouve intéressant que ce soit les biais cognitifs qui servent de support, pas uniquement, mais qui servent de support. Sachant que la psychologie, elle a souvent été critiquée pour son manque de scientificité, et que les débats ne manquent pas, y compris, je crois, au sein des psychologues, sur le caractère scientifique de la psychologie, en tout cas sur sa manière d'être scientifique. Donc c'est intéressant que l'espèce de vénération qu'on porte à une démarche scientifique et à une approche rationnelle du monde se serve de théories ou d'outils d'une psychologie qui elle-même s'interroge sur sa scientificité. Et alors, ce qui manque, par exemple, moi je trouve, c'est pourquoi, dans la sphère sceptique, si on parle de la sphère sceptique et du peu que je connais, c'est pourquoi on ne s'interroge pas sur comment ça se fait qu'on utilise les biais cognitifs comme outil. Pourquoi principalement eux, quoi. Par exemple, la chose qui me marque sur les biais cognitifs, c'est que au-delà d'être une théorie découverte, ça fait une quarantaine d'années que les premiers articles ont été écrits sur le sujet, je crois, c'est très lié aussi au développement des sciences cognitives, mais c'est aussi lié, de plus en plus dans l'économie, l'utilisation de la théorie des biais cognitifs. Est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur l'utilisation et sur l'importance que prend dans nos discours, dans notre quotidien, les biais cognitifs et leur rapport et leur introduction dans notre manière de penser l'économie. Est-ce que si la psychologie comportementale n'était pas rentrée dans l'économie, est-ce qu'on serait en importance? J'ai l'impression qu'il y a aussi une critique à apporter, une interrogation à apporter sur l'existence de ce discours important sur les biais cognitifs qui touche à la fois l'économie, mais qui touche aussi la politique. Voilà. Et puis il y a plein d'interrogations. Quand on regarde le sujet sur l'esprit critique et les biais cognitifs, on a l'impression qu'on a un cerveau, chacun a un cerveau, mais c'est un cerveau, en fait, c'est un objet un peu neutre, qui n'est pas lié à la personne, ni à la situation réelle de la personne, mais qui est plutôt la machine cerveau avec ses obstacles. dont les biais cognitifs, d'ailleurs que l'on voit plutôt en général comme des éléments négatifs. Enfin, initialement, les premiers articles c'était biais cognitifs et heuristiques, avec l'idée qu'on c'était aussi des facilitateurs de vie, les biais cognitifs. Et que la vie sociale n'est pas possible sans biais cognitifs, que l'imagination n'est pas possible sans biais cognitifs, que la création et la recherche elles-mêmes ne sont pas possibles sans biais cognitifs, en quelque sorte, sans les imitations que ça permet, sans les comparaisons, j'en sais rien, sans la vie sociale que ça permet, en fait. Donc cette question des biais cognitifs, elle est finalement peu analysée, quoi. Pourquoi, à un moment donné, on se sent obligé d'utiliser ces outils-là, avec cette idée d'un cerveau, finalement, et de ses mécaniques, par rapport en plus à une sphère sceptique qui s'intéresse beaucoup, finalement, aux rumeurs, aux fausses informations, c'est-à-dire à un monde d'informations, parce qu'on a beaucoup d'informations, et où j'ai l'impression qu'on s'inquiète moins, on s'interroge moins sur la situation réelle. C'est-à-dire qu'on a plus un questionnement sur comment contrer des informations fausses, voilà, et comment avec notre cerveau je peux discerner les tromperies, les illusions, mes propres illusions par rapport à ma manière de chercher l'information ou de la recevoir, etc. Et avec ce cerveau qui est un cerveau neutre, et finalement, on s'occupe moins du réel dans lequel on est et des situations dans lesquelles les gens sont. C'est-à-dire que mon cerveau, c'est mon cerveau, mais c'est le cerveau d'une personne dans un corps, dans une situation. Et ça devient, c'est plus quelque chose de général, c'est quelque chose de singulier, et on parle moins de ça. Même très peu, enfin, j'ai pas compris qu'on parlait de ça, en fait. Et moi, ce que je trouve intéressant, au début, ce qui m'avait dérouté quand j'ai découvert l'univers de l'esprit critique, c'est que, en fait, il y a des gens qui manifestent, hein, qui expriment, qui vont dans la rue, donc ils ont une capacité critique. Il y a des philosophes qu'on dit intellectuels critiques. Voilà, il y a des pensées critiques. Il y a une tradition, en tout cas, il y a énormément de productions intellectuelles qui sont des critiques sociales, hein, des critiques de la société, des critiques de l'histoire, des critiques de l'État, des critiques des modes d'assujettissement ou de subjectivation qui existent. Enfin, il y a beaucoup de productions de très haut niveau dans le monde entier. Et en fait, ça disparaît complètement, on n'en parle jamais. Mais on parle d'un cerveau presque nu, d'une mécanique, avec ses obstacles. Et c'est ça qui est, moi, je trouve déroutant. Comme est déroutant aussi, ou en tout cas, mériterait d'être... je me suis posé la question. En fait, par exemple, on parle de philosophie, on parle d'esprit, la notion d'esprit. Il y a, dans l'après-guerre, il y a eu la naissance des réflexions sur la cybernétique, sur l'intelligence, de la capacité de reproduire par la machine une forme d'intelligence. C'était transdisciplinaire, il y avait des ingénieurs, des mathématiciens, des ethnologues, enfin il y avait des psychologues, il y avait une population d'intellectuels et d'experts hétérogènes qui réfléchissaient à ce truc qui a amené à des transformations énormes et qu'on retrouve aujourd'hui dans les sciences cognitives et dont certaines formes d'application se retrouvent aussi dans la manière dont on développe le digital, l'intelligence artificielle, etc. Et un des projets au départ de ces cybernéticiens, c'était d'inventer une philosophie de l'esprit. Donc, il y avait ce projet d'une philosophie de l'esprit, mais je ne suis pas sûr que le mot esprit soit l'esprit au sens de la spiritualité, mais plutôt au sens de mental, au sens en anglais de mind. Donc, aujourd'hui, on parle d'esprit critique. En français, ça a une connotation spirituelle. Alors que si on essaie de comprendre, on essaie de voir s'il n'y a pas une généalogie de cette notion d'esprit critique. Bon, il y a une piste là qui est, il y avait ce projet de philosophie de l'esprit, plutôt au sens de mind, et qui aujourd'hui est extrêmement présente, hein, extrêmement inspirée par la philosophie analytique américaine, qui est d'ailleurs à des origines européennes. Il y a une chaire aujourd'hui, il y a un philosophe qui s'appelle François Recanati au Collège de France, qui a une chaire de philosophie du langage et de l'esprit. Donc il y a une grande tradition de l'après-guerre, alors bon, c'est plus compliqué que ce que je dis, mais il y a quelque chose qui est né autour du rapport à la machine, voilà, qui donne toute une série de développements, entre autres, sur l'intelligence artificielle, et qui contribue aujourd'hui à la production d'informations dans laquelle on est. Et en même temps, en face, il y a le développement d'un discours sur l'esprit critique, dont les tenants et les aboutissants, en termes de compréhension de ce que c'est, sont assez liés aux sciences cognitives. En fait, l'esprit critique dont on parle parfois est donc une réaction à l'information massive que l'on reçoit et à ses falsifications. On essaie de le comprendre comme une mécanique du cerveau. Et en même temps, ce que la production d'informations avec ses falsifications, est un effet d'une technologie issue de formes d'automatisation de l'intelligence et de progrès sur l'intelligence artificielle. C'est un peu les mêmes bases, en fait. Hein. C'est un peu la même origine, quoi. Il y a le développement des sciences cognitives qui permet un déploiement, d'un côté, des technologies de l'information et qui, en même temps, servent de grille d'analyse ou de compréhension de ce que c'est que l'esprit critique qui doit nous permettre de réagir à l'intelligence falsifiée qui est produite par les technologies de l'information. Alors, pour l'instant, moi, j'annonce tous ces trucs-là, mais je trouve que ça manque. Voilà, c'est-à-dire que tous ces gens de la sphère sceptique, en fait, ils me parlent. J'ai l'impression qu'on parle d'un résultat, d'un résidu qui est l'esprit critique, qui est quelque chose de décharné, et qu'en fait, il y a toute une richesse. Ça n'est pas de nulle part, c'est quelque chose qui est le fruit de beaucoup, beaucoup de choses extrêmement complexes dans notre société, et ça mériterait d'être un peu plus regardé. Voilà. La question des biais cognitifs, elle est intéressante parce que, alors, bon, pourquoi on s'en sert comme levier d'interprétation ou de questionnement de l'esprit critique, et en même temps, comment ça se fait que c'est à ce point présent dans l'économie, comment ça se raccroche aux sciences cognitives, comment ça nous isole ou ça oublie toute une série de pensées critiques qui sont des critiques sociales et des philosophies d'émancipation. Tout ça, que je dis de manière un peu mélangée, hein, pourquoi ça ne fait pas partie du débat, des discussions, et ça reste trop décharné, en fait. Voilà.
Alors, en fait, tu essayes un peu de montrer le lien entre les neurosciences et l'esprit critique, serait indépassable ?
Non, j'ai l'impression que l'esprit critique dont on nous parle, ou la manière dont on en parle, est effectivement issu, en tout cas, se sert beaucoup des neurosciences. Comme une évidence, quoi. Et que c'est cette évidence-là qu'il faudrait un petit peu plus questionner.
Est-ce que ce lien avec les neurosciences, par exemple, empêche d'appliquer l'esprit critique et ses outils à d'autres domaines, par exemple plus politiques ou sociaux ?
Non, pas du tout. Je pense pas du tout. Les neurosciences, En fait, on fait plein de découvertes sur le cerveau. Les sciences cognitives, en général, qui incluent les neurosciences, donc les sciences sur le cerveau, mais qui incluent des travaux sur la linguistique, qui incluent des travaux sur l'ethnologie, qui incluent des travaux sur la psychologie, sur la philosophie. Tout ça est extrêmement important. Mais justement, ce dont nous, on parle au quotidien avec l'esprit critique, ce n'est que l'écume de quelque chose de beaucoup plus riche et compliqué et enchevêtré sur les transformations, en fait, de la science et aussi de la philosophie. Et on voit que l'écume, et cette écume, paraît, moi, je trouve, si tu veux, j'ai l'impression que ce qui est salé est sous l'écume, quoi. Et que c'est le sel qui plutôt donne envie. Et moi, j'ai l'impression qu'on a au-dessus, mais on n'a pas en dessous. Et c'est cette richesse-là qui, à mon avis, serait intéressante. C'est quand même très riche. En fait, il y a cette tradition-là des sciences cognitives, hein, qui reste à explorer. Et puis, il y a une tradition aussi de la pensée critique anglo-saxonne, qui est issue de John Dewey depuis le début du XXe siècle, hein, qui est plutôt, non pas un philosophe analytique, mais un philosophe pragmatique, et qui est directement lié à des enjeux d'éducation. Donc il y a beaucoup de choses, en fait, hein, qui amènent aujourd'hui au développement de ce discours sur l'esprit critique. Il y a cette grande tradition anglo-saxonne de la critical thinking, dont on parle très peu, en fait, dans la sphère sceptique. Hein. On en parle très peu. On dit esprit critique, on dit éventuellement pensée critique, on dit éventuellement critical thinking, mais en fait on parle très très peu de cette grande tradition anglo-saxonne de la critical thinking, qui est à la fois une question sur la pensée critique et la rationalité scientifique et technique, et en même temps un questionnement très fort sur l'éducation. Et d'ailleurs, un très 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 grand nombre de rapports institutionnels de l'UNESCO, de l'Union Européenne, y compris en France aussi, ramènent la question de l'esprit critique à la question de l'éducation. Donc il y a tout ça. Donc ça, on le dit pas assez, on l'explicite pas assez. Il y a tout le développement des sciences cognitives qui amène à penser, à essayer de comprendre en fait comment on pense, voilà, qui est une autre manière de se poser la question de comment on pense. avec une richesse très forte, puisque, par exemple, un Lévi-Strauss, il est intéressé par ethnologue qui a montré la diversité des cultures, mais aussi des structures communes de pensée. Il était intéressé aussi par la biologie du cerveau, ou en fait, le fait que ces structures-là pouvaient être une émanation, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas de mécanismes matériels et biologiques. Donc tout ça est très riche, très compliqué, et nous on est à la surface de ça en train de se battre sur comment il faut bien penser, pas bien penser par rapport à cet esprit critique dont on se crée une image qui est quand même moins épaisse, moins charnue que toute cette complexité dont on ne parle pas. Et je suis étonné en fait que des gens qui s'aventurent sur expliquer comment on évite de se tromper, qui s'intéressent à creuser les choses, ne creusent pas sur les propres implicites en fait de leur discours. Voilà. Sachant que ça a des conséquences fortes, puisque il y a des choix d'éducation qui sont faits aussi sur les politiques d'esprit critique. Donc il y a quand même, moi je me demande s'il n'y a pas un rapport quand même entre la notion de crise dans laquelle on est perpétuellement et la notion d'esprit critique, qui est aujourd'hui dans un monde en crise une manière peut-être de trouver des repères. Il y a une quête qui se formule comme ça, sous la forme d'un discours de plus en plus fort sur l'esprit critique, ou en tout cas j'ai l'impression, c'est peut-être un biais d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus fort parce que je suis de plus en plus souvent en train de découvrir des choses sur le sujet. Donc il y a une sorte de quête, hein, et en même temps, on aimerait avoir moins de leçons et plus de connaissances, quoi. Voilà. Moins de leçons sur ce qu'il faut faire pour penser et un peu plus de compréhension de mais comment ça, pourquoi ça apparaît et comment ça apparaît et sur quelle base ça se construit et quel sens ça peut avoir aujourd'hui de s'intéresser autant à une question qui est l'esprit critique, hein, sous les formes qu'on nous propose, quoi.
Ouais. Ce que tu dis sur l'enseignement, ça me fait penser à plein de questions. Pourquoi on enseigne l'esprit critique dans les institutions alors que justement ça pourrait être dangereux pour elles potentiellement de s'interroger sur leurs fondements? Pourquoi est-ce qu'on enseigne l'esprit critique seulement sous certains aspects, par exemple les biais cognitifs qui sont les plus souvent enseignés? Est-ce qu'on n'a pas tendance à faire aussi souvent l'amalgame entre enseignement des sciences et enseignement de l'esprit critique? On a l'impression que l'un va forcément avec l'autre, enfin que l'esprit critique vient forcément avec le raisonnement scientifique, ce qui n'est pas forcément vrai.
Alors, de ce que je sais, hein, parce que c'est vraiment de ce que je comprends petit à petit, d'abord, il y a une grande production des institutions publiques nationales et internationales sur pensée critique et éducation. Et c'est pas, justement, c'est pas d'abord lié à la science. Les discours sont pas d'abord liés à la science. Il y a, à un moment donné, la question de la démarche scientifique, mais elle n'est pas première dans si tu lis les textes de l'UNESCO ou de l'Europe, ou voilà, qui va parler de ça. Non, c'est pas accroché automatiquement. En revanche, c'est intéressant, il y a un discours aussi très fort qui fait le lien entre esprit critique et esprit scientifique ou démarche scientifique. Il y a une partie du discours, mais le discours général... En fait, c'est ce que je comprends, moi, c'est plus compliqué. La tradition de la pensée critique anglo-saxonne, un mec comme Dewey, il lit bien la question de comment on pense à la question d'une démarche scientifique. Mais il pose cette question-là aussi parce qu'il est au début du XXe siècle et que le XIXe siècle dont il sort, et encore le début du XXe siècle, il est en pleine transformation industrielle aux États-Unis. Et que beaucoup de gens qui étaient agriculteurs ou paysans ou dans le monde rural sont rentrés dans les usines et se sont trouvés dans des systèmes qu'ils ne comprenaient pas. Donc il interroge aussi, il estime nécessaire dans l'éducation de poser la question de la démarche scientifique et technique, parce que les gens dans leur quotidien industriel sont aliénés par une certaine forme de technicité. Donc ça, par exemple, il faudrait le poser, il faudrait aussi le poser aujourd'hui, si ce n'est pas encore valable aujourd'hui, pour d'autres raisons, mais aussi parce qu'on est pris par une certaine rationalité technique qu'on ne domine pas ou qu'on n'arrive pas à comprendre ou qui nous aliène. Donc il y a bien ce lien au départ entre, dans la critical thinking anglo-saxonne, entre l'esprit critique et la démarche scientifique, mais par rapport à une question sociale et pas seulement par rapport à une question de rationalité. Et en même temps, elle est couplée à des questions d'éducation, il y a des questions d'autonomie de l'élève, de rapport horizontal entre l'enseignant et l'enseigné, à l'incitation à la créativité. Il y a beaucoup de choses sur la créativité, l'imagination, l'autonomie, Voilà, beaucoup, beaucoup. Et il y a aux États-Unis une tradition de philosophie de l'éducation. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait en France. Donc il y a des philosophes qui s'intéressent au sujet de l'éducation. Et quand tous ces gens-là produisent des choses, ils débordent largement la question de la seule démarche scientifique et ils parlent de la pensée critique comme différentes formes d'habileté, que ce soit en termes de questions logiques, en termes de questions de créativité, en termes de questions de responsabilité, aussi dans sa manière d'argumenter ou de construire sa pensée, ou de réflexion sur ce qu'on dit. Hein. Et ça dépasse la seule démarche scientifique. Et ce truc, j'ai l'impression qu'on le trouve dans les rapports internationaux. Cette pensée-là, liée à l'éducation, avec cette ouverture au-delà de la démarche scientifique, mais qui n'est pas étrangère aussi à un questionnement sur la démarche scientifique. Voilà. Et puis, il y a quelque chose de plus serré qu'on trouve dans les centres de culture scientifique, qu'on trouve dans la sphère sceptique, j'ai l'impression, qu'on trouve aussi dans une bande dessinée de Gali, etc. C'est vraiment le lien très très fort entre esprit critique et démarche scientifique. Une démarche scientifique qui a l'air d'être monolithique, j'observe, je construis des hypothèses, j'expérimente pour tester mes hypothèses, je les valide ou je les valide pas, je les partage avec des pairs et ça tient choc ou ça tient pas le choc. Voilà. Avec même l'idée que l'esprit critique, c'est une partie intégrante de la démarche scientifique. Et c'est là où on a un petit malaise, moi j'ai un petit malaise, parce que on a perdu l'ouverture de l'esprit critique. On peut être artiste, justement, et par sa pratique artistique, par la manière de sortir la matière et les choses de leur contexte ou de leur sens premier, on peut avoir une démarche critique. Quand quelqu'un qui a un comportement d'ascèse dans sa religion, dans sa foi, et qui va s'éloigner de tentations, d'opinions communes, d'imagerie qu'on lui met dans la tête, etc., qui va, pour être plus près de sa propre foi, il a finalement aussi quelque chose qui est une prise de distance par rapport au réel, hein, et une construction de soi, qui pourrait s'apparenter à une démarche critique. Et cette espèce de collage, en fait, entre c'est ça qui est étrange. Moi, ça me fait penser au débat qu'il y avait eu le questionnement qu'il y avait entre médecine et physiologie. Est-ce que la science des fonctionnements des organes et du corps, finalement, allait pas englober la médecine? Il y avait la médecine avant, un peu bricolée, etc. Et puis, à un moment donné, il y a eu une base scientifique qui s'est construite avec la physiologie, et puis avec toute la technologie, et puis tout ce qu'on a commencé à comprendre, à savoir du corps, de comment il fonctionnait, etc. Voilà. Et qu'à un moment donné, on s'est dit, la science allait englober la médecine. Mais il y avait aussi quelque chose qui était que la science physiologique, elle ne pouvait identifier des problèmes que parce qu'à un moment donné, il y avait eu une relation entre un médecin et un malade oral sur sa propre vie particulière qui faisait qu'à un moment donné il avait mal quelque part, qu'il exprimait la douleur, il exprimait un état pathologique qui permettait d'identifier que tel et tel, à un moment donné, ensuite, que tel et tel organe était finalement lié à telle et telle fonction, que la physiologie toute seule n'aurait pas pu trouver. Et que donc, à un moment donné, la démarche finalement d'art médical, et non pas de science médicale, qui était directement liée à un réel particulier de la relation entre le médecin et le malade, c'était ça qui allait permettre à la science de progresser. Eh bien, j'ai l'impression que quand on colle l'esprit critique comme étant une étape d'une démarche scientifique, on oublie de restituer à l'esprit critique, j'ai l'impression, son statut d'art. On le met dans la science et on n'en fait plus un art. Un art qui serait directement lié finalement à une sorte de questionnement ou de relation de particulier à particulier. Et c'est ça qui permettrait d'identifier les problèmes. Voilà. Et j'ai l'impression que quand on parle trop de l'esprit critique comme étant une phase de la démarche scientifique, et c'est ça peut-être moi qui me trouble énormément, hein, et ben en fait, on passe à l'as, on passe, voilà, ça disparaît, le réel, les situations, les propos, les opinions liées à des situations qui me permettraient de comprendre les choses et les problèmes. Et ça amène à un autre sujet, hein, mais après on va pouvoir parler des heures, qui est la valeur de l'opinion. Je pense qu'il y a un juste milieu entre un esprit critique hyper rationnel qui veut avoir une démarche scientifique, hein, pour lutter contre toutes les croyances et fausses croyances, si tant est qu'il puisse y avoir une vraie croyance, enfin, en tout cas qu'il puisse lutter contre toutes les illusions, et du coup aussi une destitution de la valeur de l'opinion. L'opinion ne vaut rien parce qu'il n'est pas construit selon une démarche scientifique. Or l'opinion, c'est ce qui nous permet de vivre toute la journée, quoi. Moi, ce que je raconte, c'est de l'opinion. Je veux dire, après, j'essaie de construire quelque chose avec, mais ça reste. L'opinion, c'est ce qui nous permet. Alors, ça permet à des animateurs télé comme Hanouna de dire plein de trucs qui sont pas forcément intéressants ou voilà. Mais ça nous permet dans notre quotidien de construire, d'avoir une vie sociale, d'avoir même d'imaginer, de prendre des positions politiques, etc. Ou même de commencer à penser. D'ailleurs, dans la philosophie, on part bien souvent des opinions, en fait. Donc il y a tout ça qui, moi, me trouble, c'est qu'à un moment donné, on réduit le cadre, alors qu'il est extrêmement vaste et qui fait place à notre propre personnalité, pas personnalité, mais à notre propre existence. Voilà. Et le cadre, quand il est élargi, alors qu'autrement, quand il est réduit, on n'a plus la place pour notre propre existence. Bon, je creuse, hein. Ben, j'essaie de comprendre avec mes lectures, au fur et à mesure, et un trouble, une sorte de trouble, quoi.
Ce que tu viens de dire sur fait, opinion, l'art du doute, plutôt que la science comme étape à suivre, carré, tout ça. Moi, ça me faisait penser qu'il y a souvent l'accusation de scientisme qui est faite envers les sceptiques.
Ouais.
Le fait de considérer la science comme un absolu, la méthode scientifique comme étant unique et indépassable, tout ça. Et en fait, on se défend de ça parce qu'on prétend ne pas être scientiste.
Ouais.
On prétend savoir que la science ne sait pas tout, que la science ne sait pas rechercher la vérité, que les faits ne sont pas réellement des faits, mais supposent aussi des opinions avant d'être établies. Ouais. Enfin, on prétend tout ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, on n'en tire pas toutes les conséquences. Ouais. Quand je dis « on », je fais référence à la sphère sceptique parce que je pense en faire partie.
Ouais.
Voilà, on prétend tout ça, mais on n'en tire pas toutes les conséquences. Ça devient des croyances, en fait. On croit savoir que la science ne recherche pas la vérité, et pourtant, dans nos comportements, dans nos discours, c'est ça qui va ressortir. Mm.
Voilà. En fait, c'est vrai, on constate, hein, si je reprends l'exemple de cette bande dessinée qui vient de sortir, les premières pages sont consacrées à une scène ou un repas entre amis, il y a une personne qui arrive et qui raconte qu'elle croit aux druides, elle croit aux fées. Et puis il y a un des membres de l'assemblée là qui sera un des personnages principaux de la bande dessinée, qui voilà, en gros c'est de la fadaise tout ça, etc. Et puis ensuite qui va échanger sur internet avec des collègues qui pensent comme lui et qui vont être extrêmement critiques sur cet irrationnel, etc. Et arrive l'esprit critique, qui est une personne, un personnage, une jeune femme, et qui lui dit « Mais arrête d'être agressif comme ça !» Voilà. Donc il y a, effectivement, j'ai l'impression à chaque fois dans la sphère zététique, parce que je l'ai vu ailleurs, cette idée, ne soyons pas agressifs, méfions-nous d'une agressivité irraisonnée, premièrement. Mais ce qui est très difficile, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même, comme il y a cette confusion, en tout cas, cette confusion ou ce choix de lier l'esprit critique à la démarche scientifique, c'est difficile, alors qu'il faudrait découpler l'esprit critique de la démarche scientifique. Il faudrait réussir à parler, en fait, de la démarche de pensée, qui prend une forme dans la pensée scientifique, mais qui prend d'autres formes dans la pensée artistique, ou dans la pensée religieuse, ou dans la philosophie. On ne pense pas pareil, on ne construit pas pareil sa pensée dans chacune de ces... Si on peut comme ça avoir des... Voilà. Là, je ne sais pas répondre. En fait, c'est parce qu'il y a un couplage quand même, parce que si je reprends toujours ce bouquin, une fois qu'on a dit ça, après, c'est quand même le déroulé de la démarche scientifique, hein. En plus, les personnes qui ont dessiné et qui ont écrit sont liées, en fait, en tout cas, font des références à ce que tu appelles la sphère sceptique, en tout cas à la FIS, à Thomas Durand, à Cortex, enfin, avec qui ils ont discuté, manifestement. Donc, tout le propos, alors c'est difficile, comme tout le propos va être autour de la science, de ne pas paraître, et de dire que c'est par là que ça se passe pour penser, de ne pas être taxé de scientisme. Et voilà. Mais on voit bien effectivement tout le temps ce désir. En fait, il y a un désir de bien faire, j'ai l'impression. En fait, il y a une sorte de générosité de l'acteur sceptique. En fait, il y a un véritable désir de vouloir construire sa pensée, une sorte de bonne volonté. Après, moi, je peux m'arrêter que là, parce que, en fait, c'est là où moi, je me dis qu'il y a un truc qui est raté. Voilà. En tout cas, il y a un truc que moi, je ne comprends pas du tout et qui me trouble, parce que, justement, on n'avait pas l'abandonné d'apprendre. j'ai l'impression que c'est pas par là que ça se passe. C'est pas par là que l'apprentissage se passe. C'est pas parce que, à un moment donné, on m'aura expliqué que la démarche scientifique c'est ça, et qu'en la suivant, je vais avancer, tout en sachant que la science ne dit pas tout, et que les vérités sont remises en cause, elles ne sont que provisoires, etc. Et que la démarche scientifique cherche toujours la contradiction pour pouvoir faire en sorte que les théories soient remises en cause pour pouvoir continuer, quoi, à avancer. Voilà, tous ces discours un peu de bienveillance et de prudence, eh bien malgré tout ça, moi j'arrive pas à me dire que c'est par là que ça se passe. Voilà. Je dirais que c'est pas rationnel, c'est affectif. En plus, je suis vieux, j'ai plus de 50 ans, donc je suis déjà un vieux mammifère, j'ai fait des études, hein, tout ça, mais je peux pas rationaliser. Je dis aujourd'hui, je suis troublé, et j'ai l'impression que c'est pas par là. Et en tout cas, moi, c'est pas par là, et je continue à bosser. Moi, je lis plein de... Il y a plein de choses qui m'intéressent, en biologie, en philosophie, en plein de choses. Enfin, je veux dire, je bosse, et j'essaie de chercher. C'est jamais par ça, c'est jamais, jamais, jamais en suivant ces principes-là. Si on veut parler scepticisme, autant lire quelqu'un comme Foucault que de la méthodologie esprit critique, quoi. J'ai l'impression, par exemple, moi j'ai eu une expérience très forte avec quelqu'un qui était négationniste, hein, qui était quelqu'un de très éduqué, qui avait beaucoup voyagé, qui était un Européen, hein, qui avait vécu en Syrie quand il était jeune, qui s'était converti à l'islam, qui était passionné de l'ésotérisme, etc., et qui était négationniste. Bon, alors j'ai discuté, on a fait connaissance, il a voulu m'initier à ce qu'il pensait. Bon, en fait, j'ai l'impression que si je suis d'esprit critique tel qu'il m'est dit, là, tel qu'il m'est expliqué, je suis à poil total, hein, face à un individu qui a un discours extrêmement construit avec toute une série de docs, enfin, et de références et d'autorités X ou Y. Enfin, bon, en revanche, j'ai lu Primo Levi. Et en fait, c'est parce que j'ai lu Primo Levi et que j'avais été marqué dans son introduction lorsqu'il disait que le commandant d'Auschwitz lui expliquait que de toute façon, il pouvait raconter tout ce qu'il voulait, personne ne le croirait. En fait, c'est cette espèce de connaissance, de mémoire et d'affect que j'avais qui permet d'arrêter en fait de se poser la question en termes de rationalité. Parce que je ne suis pas historien et que je n'ai pas le temps d'être historien, en fait. Je n'ai pas le temps et peut-être pas la capacité. Donc, je ne suis pas historien. Donc, je ne peux pas, moi, avoir l'ensemble des éléments. Je lis des historiens, mais je ne suis pas historien. Donc, à un moment donné, ce qui me sauve, c'est une certaine culture, quoi. Une rencontre, ou un affect, voilà, qui est quand même lié à un témoignage, à un écrit, à une dimension comme ça de production. Mais, voilà, je suis plus tenté par ça, je trouve plus mon salut, en fait, dans cette quête intellectuelle et cette recherche de choses qui me donne des affects et qui ne me permet pas forcément toujours penser, j'en sais rien si j'arrive à construire une pensée, et qui me sauve dans des situations comme ça, que si je... Voilà. Et dans l'esprit critique, même si la démarche de connaissance, de connaître des choses, de développer sa culture est présente, elle arrive à la fin, quoi. Et moi, j'ai l'impression quand même que... Alors peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, elle n'arrive peut-être pas à la fin, elle est peut-être présente plus rapidement, mais pour moi, en tout cas, on décrit trop la porte d'entrée. Alors que moi, je voudrais rentrer dans la maison, quoi. Rentrer dans la maison ou sortir, on décrit trop la porte, quoi. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de passer pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et je trouve que la démarche de l'esprit critique, elle est trop... alors la porte, elle est comme ça, il faut l'ouvrir comme ça, etc. Et pendant ce temps-là, on n'est pas passé de l'autre côté. Alors, en revanche, je comprends que ceux qui travaillent là-dessus, eux, ils font cette démarche. Ils creusent pour eux, et puis ils viennent la raconter. Mais il y a eu cette démarche de leur part et qu'ils racontent. Mais en fait, ce qu'ils racontent n'est pas aussi fort que si j'avais rencontré directement les textes ou directement fait des rencontres avec des gens sur des situations, des choses, du réel, enfin, qui m'auraient donné envie ensuite, avec ma propre vie, de me débrouiller pour avancer dans ma pensée, quoi.
Je pense que je te rejoins, hein, sur le fait qu'il y a la méthode avant tout, et puis la culture à la fin et les émotions, peut-être, mais je suis même pas sûr qu'on en parle. Et ce que tu as dit là sur quand je me retrouve face à un négationniste, si j'ai pas la culture ou les affects qui font que je vais parler avec lui, je me retrouve à poil. Bah, c'est assez drôle parce que dans le scepticisme, il y a un truc qui est de plus en plus connu, c'est ce qu'on appelle l'entretien épistémique. C'est une manière en fait pour discuter avec ceux qu'on appellerait des croyants, sous-entendu de thèses que nous on juge fausses ou dangereuses ou quoi. Et c'est uniquement une méthode. En fait. Ça ne suppose pas de culture. Oui. On est censé pouvoir mener un entretien épistémique sans avoir aucun élément de connaissance sur le sujet qu'on aborde, en étant potentiellement totalement détaché effectivement. Une méthode à suivre pour que les gens se questionnent eux-mêmes sur leurs croyances. Quoi. Mais ça n'implique pas de parler réellement du fond du sujet.
Alors, ça me fait penser à autre chose. C'est que effectivement, quand on parle de méthode, on va parler de méthode applicable à un individu. Et j'ai l'impression, par exemple, moi, ce qui me surprend, c'est que on dit aux individus, et notamment, enfin, à chacun d'entre nous, mais c'est encore plus important quand on le dit à des jeunes, on leur dit, avec ton cerveau, si tu te concentres sur les mécanismes de ton cerveau, sur les obstacles qui te conduisent à te tromper, etc., tout seul, tu vas pouvoir te débrouiller par rapport à l'information. Or, si je suis très concret, la masse d'informations à laquelle on est soumis est telle qu'avec mon cerveau tout seul, je n'ai strictement aucune chance. Tu n'as aucune chance de réussir. Donc forcément, si tu es volontaire dans cette méthode, ben, tu vas être en situation d'échec. Parce que de toute façon, tu ne pourras pas répondre et discerner la bonne de la mauvaise information tellement tu en reçois en très très grosse quantité. Et donc ça amène aussi à celui qui essaie d'appliquer à une sorte de culpabilité. Et je pense que c'est valable aussi pour un jeune. C'est-à-dire, on lui dit, il faut que tu aies l'esprit critique. D'abord, c'est plein d'adultes qui lui disent ça. Il faut que tu aies l'esprit critique. Alors, bon, d'accord, il est volontaire, il va apprendre ce qu'on lui apprend sur l'esprit critique, etc. Il est tout seul. Alors, on lui dit bien, à un moment donné, on peut discuter, il faut discuter avec les uns et les autres. Hein, mais il y a cette vision hein, très liée à la démarche scientifique telle qu'elle est dans la sphère éthique. Je pense que ce n'est pas le cas quand on parle de la pensée critique lié à des enjeux d'éducation de la tradition anglo-saxonne qui, à mon avis, est plus ouverte, même si là aussi on pourrait s'interroger. Enfin bon, en tout cas, quand elle est couplée comme ça à des marches scientifiques et au cerveau individuel, moi je trouve que ça nous met à un moment donné en position d'échec parce que ça nous positionne par rapport à une information qui est d'abord, avant d'être un contenu, un effet technologique bien plus puissant que nous, quoi. C'est-à-dire qu'on est à poil devant un tank. Et donc, moi je me dis, il y aurait au moins autant d'importance à réfléchir sur comment bien penser que à penser techniquement comment est produite cette information avant même de savoir si l'information est vraie, fausse ou je sais pas quoi. En fait, elle est produite par une technologie, par énormément de choses, et il faudrait déjà que je puisse mieux comprendre comment il y a cette production, quel sens ça a, comment ça fonctionne, en quoi elle est très concrètement liée à des machines, à des productions de minerais qu'on utilise dans les machines, à des câbles qui sont partout. Enfin, la démystification, elle n'est pas seulement dans la démystification de l'idée qui est produite par l'information qu'on reçoit, on reçoit plein, en quelque sorte, de mystification perpétuelle, elle est aussi dans la restitution du sens humain de la technologie qui produit toute cette information auquel je suis soumis. Voilà. Tant qu'on est sur une méthode avec tu rases tout, tu restes juste avec ton cerveau, et avec ton cerveau tu fais le mini-explorer, si tu veux, de l'information, je suis sûr que tu as perdu d'avance. Alors que si on disait d'abord il y a de la technologie réelle qui produit tel truc, hein, et puis il y a ta vie particulière, ton existence, où d'une certaine manière tu construis ton cheminement personnel, intellectuel, dans la forêt, et que de ta culture, de tes rencontres, qui peuvent être... On peut tenir face à l'adversité avec de la poésie. Voilà. Par exemple, il y a le poète Rainer Maria Rilke qui disait « Les gens ont pour toute chose des solutions faciles, les plus faciles des solutions faciles. Il est pourtant clair que nous devons nous tenir au difficile. Tout ce qui vit s'y tient. » Donc, ça, c'est de la poésie. Eh bien, avec cette quelques phrases... Eh bien, ça peut être un outil dans la vie. Voilà. Très fort. Pour penser, pour résister, pour tenir le choc dans les situations X ou Y. Voilà. Donc, c'est tout cet univers-là qui est abrasé, hein, et qui doit aussi faire partie du truc, quoi. Voilà, alors voilà, après, on peut parler des heures, parce que il y a plein de sujets. Hein. Il y a aussi l'intérêt que ça peut avoir. Comment on peut se servir de l'esprit critique? Moi, je trouve qu'il y a quand même un intérêt pour nous aujourd'hui, hein, dans un centre de culture scientifique. Hein, c'est que, et d'ailleurs, les travaux qui sont produits sur l'esprit critique, qui sont là, il y a un groupe de recherche là, qui vient de sortir un rapport sur l'esprit critique. Hein. Il dit l'esprit critique, c'est partagé par tout le monde. Donc, c'est très intéressant parce que si l'esprit critique est partagé par tout le monde, alors le scientifique comme le non-scientifique ont un esprit critique. Ça fait un pont. S'il y a un esprit critique chez tout le monde, alors il y a un pont possible entre le scientifique et le non-scientifique, entre la science et la société. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet de aujourd'hui ou parfois, il peut y avoir un hiatus ou des mécompréhensions ou il y a quelque chose par là qui peut être travaillé. Donc ça, c'est intéressant. Dire aussi qu'il y a un esprit critique du côté de la population, du coup, du côté de la société, ben c'est aussi dire, est-ce qu'il n'y a pas, de ce côté-là, quelque chose qui peut interroger la science? Donc ça aussi, ça, parce qu'il y a au cœur de la société et de ses opinions non sachantes, en tout cas non scientifiques, parce qu'il y a, par ailleurs, il y a aussi des savoirs qui sont non scientifiques. C'est aussi un des enjeux aujourd'hui. On dit qu'on est dans une société de la connaissance. Et quand on dit connaissance, on dit scientifique, on dit savoir scientifique et savoir non scientifique. Et il y a aussi une sorte de grande compétition entre les savoirs non scientifiques et les savoirs scientifiques, qui peut-être contribue à la volonté d'affirmer comme ça la force d'une démarche scientifique, en tout cas par certains. Donc là, il y a des choses positives, intéressantes à creuser, qui seraient de dire ben, il y a du côté, pas seulement scientifique, mais du côté de ceux qui ne sont pas scientifiques, des questionnements qui peuvent servir la démarche scientifique ou la science. Parce qu'il y aurait cette espèce d'esprit critique qui serait commun à tous. Il y a aussi une autre question, c'est la question de la confiance. Une des grandes thématiques, en tout cas de ce que j'ai compris, dans la pensée critique et dans la tradition critical thinking anglo-saxonne qui est liée aux enjeux d'éducation, c'est de donner confiance aux élèves. Il faut qu'ils aient, en fait, pour qu'ils soient autonomes, c'est comme toutes les écoles alternatives, Montessori ou autre, qui essayent en fait de que l'élève puisse comme ça avoir une sorte d'autonomie, de confiance en lui, etc. Aujourd'hui, on a une sorte de discours qui est pas celui-là. Quand on parle que de cet esprit critique lié à la démarche scientifique dans la sphère sceptique, on a l'impression que la question c'est il faut faire confiance à la science. Alors que j'ai l'impression que un des enjeux c'est plutôt il faut que vous fassiez confiance. Voilà. Et se faire confiance, ce n'est pas une idée de, uniquement de croire en toi, comme on l'entend partout, il faut croire en soi, etc. etc. C'est qu'il y a une construction possible, on peut construire les choses, il y a une construction de soi par la pensée. Et c'est d'abord celui qui apprend qui doit être dans la confiance, plutôt que faire confiance dans ceux qui savent. Quoi. Voilà. Il y a peut-être quelque chose aussi par là qui est à creuser. Hein. Il y a un bouquin qui est sorti en 2020, qui est écrit par Elena Pasquinelli et puis Mathieu, je sais plus, Farina, je crois, qui s'appelle « L'art de faire confiance pour un nouveau contrat science-société », qui explique les démarches scientifiques par différents exemples. Et où l'enjeu, c'est de faire confiance. Un nouveau contrat en science-société, c'est faire confiance dans la science, avoir confiance dans la science. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une question qui est plus ouverte, hein, qui est la propre confiance, la propre foi qu'on peut avoir en voilà, sa propre audace. Par exemple, moi, ce qui me dérange, c'est que l'esprit critique, hein, tel qu'il nous est souvent proposé, c'est souvent une recommandation de prudence. Voilà, il ne faut pas s'emporter, il faut observer, il faut voir un peu les obstacles. Et une fois que j'ai bien, que j'ai bien bardé le truc, alors je peux commencer, voilà. Il y avait dans le mouvement des Lumières, dans la tradition des Lumières, il y avait un truc qui était, il y avait une maxime qui était sapere audere, oser savoir. Donc audere, audace. Moi, ce qui me trouble peut-être, c'est que dans l'invitation à l'esprit critique, enfin dans une certaine invitation, parce que on voit que la tradition peut être très large, mais il n'y a plus cette idée d'audace. Il y a d'abord la prudence. Est-ce que c'est facile, quand on a 15 ans, 14 ans, mais même plus tard, c'est-à-dire quand on a un élan vital, une envie de désirer, de je sais pas quoi, enfin bon, d'oublier ça, qui peut être porteur d'une audace, hein, où on peut se tromper, mais on a eu une audace d'aller chercher, on a eu l'audace d'interroger par exemple des gens qu'on n'aurait pas osé parce qu'ils savent tellement de choses, ou de franchir des barrières, ou de mettre en doute des choses, parce qu'on a eu une sorte de courage d'aller chercher. Et j'ai l'impression que cette audace, elle est, je ne dis pas qu'elle est absente, parce qu'on voit bien qu'il y a un goût de savoir qui existe dans ce qui est exprimé dans cette sphère sceptique dont tu parles. Hein. Mais il n'y a pas tant d'invitations. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas cette... ça ne donne pas envie, quoi. On n'a pas envie de franchir les barrières, après. On sait qu'il faut les franchir parce que c'est la méthode, mais on n'a pas envie de le faire parce que c'est pas par là que ça... Voilà. On ne dit pas « oser savoir », quoi. On dit « mettez en doute, questionnez ». Mais on n'a pas osé savoir.
C'est quoi l'enjeu du scepticisme, la démarche sceptique, finalement? Finalement, on est un peu perdu là-dedans. Je sais pas, est-ce que c'est combattre les croyances, éduquer les masses, s'émanciper, ne plus se faire avoir? Est-ce qu'il y a aussi un enjeu politique au scepticisme? Est-ce qu'il y a une finalité politique?
Ouais, moi, personnellement, je sais pas. J'en sais rien. Je ne vais pas répondre à la place. Il y a forcément... je veux dire des bêtises. Il y a forcément un questionnement politique. Si on prend le négationnisme, c'est aussi politique. C'est très très politique. Mais quand on voit que des gouvernants invitent à l'esprit critique dans un contexte, quand même dans un contexte de démocratie, dans un rappel, et quand on... Les rapports de l'UNESCO ou autre, c'est quand même un rappel que la liberté de penser est dans les droits de l'homme, à un moment donné. Donc il y a ça. Alors c'est vrai que cette liberté de penser, elle n'est pas dans le discours sceptique. Elle n'est pas dite, elle n'est pas formulée comme ça. Mais il y a bien quand même une dimension politique au sens de construction de la citoyenneté, de toute façon, dans cette idée de penser. De réussir à penser, etc. D'avoir une autonomie de pensée. Il y a bien cette notion de responsabilité, il y a bien cette notion... L'un des grands trucs des objectifs des biais cognitifs, c'est de pouvoir bien décider, faire le bon choix. Donc il y a forcément une dimension politique. Mais il y a aussi un questionnement quand on voit que c'est à ce point des institutions, des formes de pouvoir qui disent il faut avoir l'esprit critique. Même des entreprises. Aujourd'hui, c'est un rapport de l'OCDE qui le dit, mais en fait, c'est une des raisons aussi pourquoi dans l'éducation on s'intéresse à la pensée critique. C'est une compétence pour avoir du travail. Voilà. L'esprit critique et la créativité sont souvent mis ensemble, en tout cas dans la démarche pensée critique anglo-saxonne, c'est mis ensemble, souvent. Ce sont des compétences pour trouver du travail. Ou pour travailler demain dans une société qui est extrêmement complexe, avec beaucoup de technologies, où il y a beaucoup d'automatisation, et finalement, ce qui reste d'humain, c'est cette capacité à prendre ses distances, c'est l'imagination, c'est de trouver des solutions. Donc il y a cette dimension-là. C'est pas un sens critique qui fait la révolution, en fait, ça. Si un grand cabinet américain m'explique que dans les 20 prochaines années, l'esprit critique et la créativité seront des compétences qu'il faudra avoir sur son CV et dont il faudra prouver aussi l'existence, alors soit par des bonnes notes qu'on aura à l'université ou à l'école, soit par les actions qu'on aura menées qui seront estampillées esprit critique, je peux avoir un tout petit doute sur... est-ce que c'est avec ça, est-ce que c'est ça dont on parle quand on essaye de s'interroger sur ce qu'on arrive à penser ou construire sa pensée ou se construire soi-même. Voilà, je pense que c'est j'enfonce une porte ouverte. Voilà.
Je crois que c'est pas tant une porte ouverte que ça, parce que ça paraît pas évident de se dire qu'on va s'interroger sur les enjeux d'une méthode qui se veut objective. Mais en fait, il faut le faire quand même, parce que à partir du moment où cette méthode est, comme tu l'as dit, vantée par des institutions ou le monde de l'entreprise, on peut vouloir avoir les mêmes enjeux que les institutions et les entreprises, mais généralement c'est pas le cas. Dans ce cas, est-ce qu'on partage les mêmes enjeux que si on vante aussi cette méthode? Voilà, c'est pour ça que ça me semblait important d'essayer de définir les.
Et je suis pas sûr que dans les grandes entreprises aujourd'hui, si vous êtes vraiment critique ou décalé dans votre approche, ça vous conduise à très loin, quoi. Il est possible qu'il y ait des individualités qui, parce qu'ils ont une capacité très forte de déplacement, des questionnements, etc., et puis avec un contexte social, avec toute une série d'éléments, en fait, ce soit leur créativité, leur décalage, leur hétérodoxie qui fasse qu'elles soient voulues et désirées par l'entreprise. Mais il y a aussi beaucoup d'individualités qui sont critiques ou qui vont être décalées, pas adaptées à une norme de l'entreprise et qui vont être... laminés ou qui vont pas pouvoir continuer à travailler dans l'entreprise en question. Je pense qu'il y a des paradoxes, en fait, de la même manière qu'il y a des paradoxes entre une société où on nous invite très souvent à vivre selon nos intuitions, à être inspiré, à sentir les choses, et en même temps, cette démarche dont on nous parle, scientifique, cet esprit critique qui nous invite à, justement au contre-intuitif. Il y a quand même, alors c'est des paradoxes dans lesquels on est toujours pris, mais il y a cette complexité où on a à la fois un monde qui nous dit si tu veux être toi-même, si tu veux réussir, si tu veux même trouver ta voie très personnelle, ce que tu es, il faut que tu suives ton intuition. Et puis on te dit aussi que le téléphone, il est d'un usage intuitif. L'utilisation de ton site internet, il doit être intuitif. Donc voilà. Et donc on te dit tout ça, intuition, facilité, simplicité, ergonomie, etc. Et en même temps, on te dit, et ça peut être les mêmes en plus, il faut suivre une méthode qui va pouvoir te conduire à des réflexions contre-intuitives. Et te faire remonter la pente des intuitions qui peuvent être trompeuses. Il faut se méfier de la première impression. Alors c'est pas l'un ou l'autre, hein, mais on doit pouvoir passer, à mon avis, de l'un à l'autre dans la journée tout le temps, quoi. Voilà. On ne peut pas vivre à 100% dans une sorte de quête d'objectivité, sur le bien fondé de laquelle on peut s'interroger, et en même temps sur une invitation perpétuelle à profiter de soi au plus proche, à se comprendre soi-même pour mieux sentir le monde. Quoi. Faire les deux en même temps. Quoi.
Est-ce que tu aurais des pistes pour justement que l'esprit critique, la démarche sceptique ne soient pas complices de ces institutions ou entreprises que ça en devienne pas un outil de perpétuation des dominations sociales ou une défense du statu quo.
Je sais pas s'il faut. Ouais, moi j'affirme pas. Je sais pas si la sphère sceptique est suppôt du pouvoir ou d'un.
C'est pas ce que j'affirme, mais les outils de l'esprit voilà. critique peuvent être détournés en ce sens.
J'ai pas de conseils à donner. Enfin, je veux dire. Moi, je pense quand même qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, il faut s'interroger sur ses conditions de pensée, en fait. Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, qu'on produit tel type de discours aujourd'hui ? Alors, en fait, j'entends bien, finalement, que... Finalement, ce que j'avais aussi compris, c'est que les acteurs de la sphère sceptique qui ont une sorte de bonne volonté veulent aussi bien penser et pour ça, s'interrogent toujours sur eux-mêmes. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une certaine voie qui est prise, qui a un premier chemin... Mais qu'à un moment donné, on va se retrouver sur quelque chose qui est de philosopher. En lien avec la pensée critique, il y a, donc je te disais tout à l'heure, il y a une philosophie d'éducation et les gros producteurs d'articles sur la pensée critique sont anglo-saxons, sont souvent des philosophes de l'éducation. Et j'ai découvert aussi, enfin dans mes petites recherches là, dans mes quêtes, hein, que une des dimensions de l'enseignement de la pensée critique auprès des élèves et des enfants, elle reprend le terme de philosophie et c'est la philosophie pour les enfants. Il y a une discipline où il y a une sorte de sujet qui s'appelle la philosophie pour les enfants. Et il y a des gens qui travaillent sur ça, sur non pas l'esprit critique, voilà, mais philosopher avec les enfants. Et je trouve que en fait, ce que font en fait les personnes qui s'intéressent à la sphère sceptique et qui, en fait, ils s'interrogent, en fait, ils ont une démarche liée au philosophé, quoi. Mais il y a bien toute une série de, il y a une tradition de voilà, il y a des intellectuels qui, des gens qui ont réfléchi sur, qui ont écrit, voilà, depuis le 5e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, et qui ont abordé tout plein de questions de comment penser, avec des approches très différentes, entre la pensée analytique, la philosophie analytique américaine, enfin, qui n'est pas américaine, qui est très forte aux États-Unis, mais la philosophie analytique, et puis une philosophie de, pour reprendre tout à l'heure Foucault, ben c'est pas la même chose. Il y a plein d'approches différentes, mais c'est finalement la question de ce que c'est que la philosophie. Et voilà, je crois que t'es pas sceptique à vie, t'es pas sceptique de cette manière-là à vie. Il faut continuer, en fait, dans ce questionnement, en fait. J'ai zéro conseil à donner, moi. Moi, je ne peux exprimer mon trouble et essayer de formuler quelque chose par rapport à ce trouble en rapport avec une meilleure compréhension de ce que c'est que ce phénomène-là, de l'esprit critique, plus largement de la pensée critique et de ses liens avec la démarche scientifique, avec l'éducation. Voilà.
Tout cet entretien, c'était ouais. Pour parler, entre autres, du fait qu'il y avait certains sujets qui passaient à la trappe, ou certaines approches du scepticisme qui pouvaient passer à la trappe, que ça créait des angles morts, en fait. Je trouvais que c'était relié à une croyance qu'il peut y avoir dans le scepticisme, que les compétences acquises dans un domaine sont transférables à d'autres. Mmh. Comme quoi il suffirait d'apprendre la méthode sceptique pour pouvoir douter de tout, tout le temps, n'importe où. Comme si apprendre la démarche sceptique grâce à du paranormal, en l'appliquant à du paranormal, ça nous permettait de penser nos conditions matérielles d'existence, ou les dominations sociales, les conditions qui font qu'on pense ce qu'on pense, alors que c'est des domaines quand même assez séparés.
Ouais. Après, qu'on puisse importer, qu'on puisse traverser des disciplines ou des champs de savoir, c'est sans doute très bien et souvent très, très sain. Il faut juste savoir, si tu importes que ton truc et que tu vas pas importer quelque chose d'autre d'ailleurs, pour confronter ou pour mélanger ou pour construire un bric-à-brac différent qui te permet de... c'est peut-être là où ça gêne, c'est sûr. Pareil, c'est marrant, c'est aussi la question de la médiation. Si on suivait le raisonnement de l'esprit critique à la lettre, donc d'être comme ça contre-intuitif, de freiner ses émotions, etc., mais, eh bien, il n'y aurait pas de médiation possible, parce que la médiation, elle fonctionne sur des expériences, sur les sens, sur les émotions, sur des prises de parole, sur de l'opinion, sur des séductions, sur du ludique, sur toute une série de dimensions comme ça... qui sont justement dans le projet de la pensée critique lié à l'éducation, la créativité, mais qui ne sont pas dans la dimension de telle que l'exprime en France la sphère sceptique, ben on ne pourrait pas. On dirait, ben, non, tout ça, ce n'est pas rationnel, ça me dévie en fait. C'était un des enjeux sur l'exposition ici aussi. C'est, au fond, pour apprendre, il faut passer par quelque chose qui n'est pas forcément que rationnel, quoi. Qui est de l'intersubjectif, qui est de l'expérience, qui est un certain jeu avec son corps, avec... voilà. Il y a plein de questions.
Merci à Marc pour cette interview, j'espère qu'elle vous aura plu. Les Dubitaristes, c'est une association basée à Bordeaux, n'hésitez pas à suivre nos activités si le sujet de l'esprit critique vous intéresse, ou si vous avez envie de vous impliquer. À une prochaine, et que le doute soit avec vous.